On a un petit peu parlé, des faits divers. Tu les as évoqués. Alors pour moi, les faits divers, c'est quelque chose de très important. J'ai l'impression que l'histoire des femmes, elle s'écrit maintenant au niveau des faits divers, parce qu'il n'y a pas une grande histoire avec un grand H des femmes, parce que c'est vraiment l'histoire quotidienne, l'histoire de ce qui se passe, c'est une histoire sociale des gens, où il y a beaucoup de femmes qui entrent dans ces faits divers. Et la manière dont ils sont présentés dans les journaux, souvent, elle est tellement éclatée qu'on ne voit pas justement la trame. Chaque jour, par exemple, je me souviens, je crois que c'était l'été dernier, presque chaque jour, il y avait une femme qui avait été tuée par son mari, par son amant. Et alors, quand on additionne, alors à chaque fois, c'était une femme tuée, drame dans une famille, une femme avec ses enfants, l'autre poignardée, l'autre au fusil d'assaut, etc. C'était des faits complètement éclatés. Et en lisant ça, on disait, mais c'est pas des faits divers, c'est vraiment une histoire qui se passe. C'est vraiment le drame de la famille, c'est pas des drames de la famille, c'est des hommes qui tuent des femmes. Et dans les journaux, c'est d'être complètement effiloché. Alors, est-ce qu'il y a une réflexion, une manière que vous, les femmes dans les journaux, avez de présenter ces éléments éparpillés d'une histoire des femmes?
Je ne pense pas qu'il y ait eu une réflexion vraiment globale sur de la part des femmes dans les journaux, parce que le travail est vraiment mixte. Ce qui y aura de nouveau, peut-être, c'est que l'escalade des choses sensationnelles dont on parlait, elle atteint des fois un point un peu absurde. Et moi, ce que je constate, c'est qu'à l'intérieur de la rédaction, il arrive de plus en plus souvent qu'il y ait une tentative de mise en question, mais faite collectivement pendant une séance de rédaction, par exemple, aussi bien un homme qu'une femme va dire quand même ce qu'on a fait hier, là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et puis, on s'aperçoit que, ah oui, moi aussi. Et il y a toute une discussion qui naît autour d'un malaise qu'on a été plusieurs à ressentir, que ce soit des femmes ou des hommes. Moi, ça me semble un peu nouveau. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup d'arrivages de nouveaux jeunes journalistes. Et bon, il y a eu en tout cas une évolution dans cette atmosphère. Et des discussions commencent à naître qui n'existaient peut-être pas auparavant. Peut-être à cause de l'abus du ton sensationnel qui ne plaît vraiment qu'à moitié et auquel peu de jeunes journalistes adhèrent complètement.
Oui, il y a une réflexion qui est en train de se faire. Au niveau de l'Association de la presse genevoise, il y a une commission qui vient de se constituer sur justement les problèmes éthiques et de déontologie et qui aborde ces problèmes de faits divers, de sensationnalisme et bien d'autres. Alors, oui, ce sont des questions qu'on commence à aborder. Maintenant, je crois que le problème, il se pose plus au niveau du fait divers qu'au niveau de la femme dans le fait divers. Et si c'est un homme qui a été tué, l'affaire est présentée de façon aussi éclatée.
Parce que le drame de l'éclatement de l'information, tel que vous le décrivez, c'est que, tel que je suis d'accord de le décrire aussi, c'est un défaut, il me semble, inhérent à la presse quotidienne, au phénomène presse quotidienne. C'est quand même fou de faire des journaux quotidiens à cette allure, avec le nombre de pages qu'on publie chaque jour. Si on y pense un peu, c'est complètement fou d'écrire autant, aussi vite et tous les jours. Donc, le phénomène d'éparpillement et d'éclatement, c'est quelque chose de réel qui tient à la presse, au fait qu'elle est quotidienne. Et puis, si on veut faire une étude un peu plus poussé, ce sera soit dans un hebdomadaire, probablement, soit ce sera carrément une étude sociologique et puis ce sera un livre.
Donc c'est le rythme qui impose cet éclatement et c'est pas qu'une chose est vue après l'autre, c'est pas que...
Mais il me semble que la presse quotidienne, c'est la même en France et en Angleterre, et pourtant, dans ces deux pays, on trouve quand même certains journaux qui sont peut-être moins à faits divers, comme ça, éclatés. Non.
Enfin, il y a des journaux qui sont moins portés sur le sensationnel, très sûrement. C'est les journaux qui ont des tirages beaucoup plus modestes, ou bien ce sont des journaux d'opinion qui peuvent donc se permettre de ne pas gagner d'argent. Il faut bien se dire que la Tribune de Genève et la Suisse sont quand même des entreprises commerciales. Il ne faut pas se tromper d'employeur. On sait qu'on entre dans une entreprise commerciale. Il ne faut pas confondre ça avec un journal d'opinion qui peut se permettre de perdre de l'argent ou de ne rien gagner du tout ou d'avoir un faible tirage sans que ça prête à conséquence. Les journaux de réflexion sont généralement des journaux de faible tirage qui n'ont pas besoin d'être rentables.
Ou bien alors ce sont des très grands journaux à l'échelle nationale, en France, où bon, on le voit en Suisse avec le Tagesanzeiger ou bien la NZZ. Ce sont des journaux qui ont un très grand tirage, donc ils peuvent se permettre plus de sérieux. Au niveau, je crois que le problème au niveau genevois, c'est au niveau suisse, c'est le petit marché qu'il y existe pour chaque journal. Donc, et surtout à Genève, où la concurrence est extrêmement vive entre les différents journaux. Alors, le fait divers, on sait que ça se vend, on sait que les gens aiment, parce que c'est des faits de vie quotidienne, ça les concerne de près. C'est pour ça que l'accent est mis là-dessus. Maintenant, on pourrait, malgré cela, essayer de traiter le fait divers d'une façon plus...
Mais vous savez, moi, ce qui me plairait beaucoup, ce serait que les lecteurs le disent et réagissent à ça. Parce que c'est quand même un peu désespérant de ce point de vue. Il y a très, très rarement un lecteur qui écrit pour dire maintenant, il faut arrêter, et qui fait une critique un peu solide des erreurs qu'on a faites ou des exagérations qu'on a faites. Où sont les protestations des lecteurs? Moi, je ne les entends pas. En revanche, on fait une affiche saignante et paf, tout le monde l'achète.
Donc il y a peu de retour, vous n'avez pas ce retour des gens
Et le retour, il est approbatif pour ce qui est du sensationnel.
Oui, le retour, c'est que quand on a écrit une erreur, là on a une réaction. Mais moi j'aimerais aussi que les lecteurs protestent ou disent que ça ne leur plaît pas, parce que si c'est simplement les journalistes qui disent que ça ne leur plaît pas, eh bien on leur dit écoutez, allez dans un autre journal.
Parce que les lecteurs sont très contents comme ça, merci.
Absolument, voilà. Les lecteurs et les annonceurs sont très contents.
Une radio pour elle tous les mercredis sur Radio Zone 93.8. Y a-t-il une femme dans ce journal? On arrive au terme de notre débat. On aimerait encore parler des pages femmes. Enfin, on en trouve de moins en moins. Et Simone Guy, je crois que pendant longtemps, vous avez été responsable d'une telle page au journal La Suisse.
Voilà, mais je pense que ça avait un plein sens dans les années 70. ou une page où on pouvait parler de façon un peu séparée du reste, en somme, de problèmes féminins se justifiait tout à fait. Ça correspondait à la période où les femmes avaient vraiment ce besoin de se, presque de se retirer un peu entre elles pour discuter de leur propres questions à elles, et elles avaient besoin de le faire entre elles pour vraiment, parce que elles avaient envie de savoir qui elles étaient et un espèce de besoin de se découvrir elles-mêmes. Et ça, c'est une chose qui s'est faite, et il me semble largement faite dans, pendant toutes les années 70. Pour moi, il me semble que dans les années 80, c'est une étape qui avait suffisamment duré. C'est-à-dire qu'après, pour aller plus loin, il fallait revenir au travail d'équipe qui est tout à fait mixte et voir, bon, si on s'était découvert des compétences, voir comment les appliquer dans la vie tout à fait normale qui est d'être une vie homme et femme ensemble. Pour moi, dans les années 80, le fait d'avoir une, quelque chose d'étiqueté féminin, comme si ça devait être distinct du tout, me semble dépassé. Et il me semble que maintenant, les femmes font du travail plus efficace en mettant leurs compétences en même temps que toutes les autres compétences et en travaillant avec les hommes.
Donc pour vous, c'est positif, ce passage de la page femme à la pousse café, je crois que ça s'appelle
comme ça. C'est tout à fait positif. Ce qui m'aurait bien plu, ça aurait été par exemple que ça fasse l'objet d'un petit débat, que les lectrices donnent leur avis, que ça soit une chose discutée, qu'on dise « Ah bon, maintenant ça a assez duré, on arrête cette formule-là ». Bon, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu de discussion là-dessus, mais qu'il y ait eu une décision autoritaire de mon éditeur qui a trouvé que ça commençait à suffire et ça ne lui plaisait pas du tout et qu'il fallait changer. Alors j'ai dit, bon, ça correspondait aussi à une certaine envie que j'avais de changer quelque chose. Ça m'aurait mieux plu que ce soit l'objet d'un débat. Il n'y a pas eu ce débat. Les lectrices n'ont pratiquement pas protesté à part quelques militantes tout à fait isolées. Donc le débat n'a pas eu lieu, ce que je regrette. Mais que le changement ait eu lieu, ça, je suis très contente.
Mais on a un peu l'impression qu'effectivement, au départ, dans les années 70, quand on lisait cette page femme, on avait l'impression que c'était relégué, tous les problèmes pas importants, ces problèmes de bonne femme, comme on disait, bon, c'était là. Et puis, peu à peu, cette page femme, je trouve, elle s'est transformée, elle a commencé à parler vraiment de problèmes importants des femmes. Et alors, on peut dire, bon, d'accord, on n'a plus besoin d'une page à nous, on peut s'étendre sur tout le journal. Mais en fait, pour moi, cette disparition de la page femme, elle a un peu signifié la disparition des femmes dans le journal. Pas des femmes journalistes, puisque vous êtes là et vous dites qu'il y en a de plus en plus, mais d'une certaine problématique des femmes, d'une manière de parler des problèmes de femmes qui n'existe plus dans la Suisse.
Je pense que le langage a évolué simplement, parce que cette disparition d'une page féminine distincte a coïncidé avec l'arrivée de nombreuses jeunes journalistes dans la rédaction. Et ces jeunes journalistes n'étaient pas du tout intéressés à travailler dans une page qui aurait été étiquetée femme. Ça ne leur plaisait pas, et pour elles, ça n'avait pas d'intérêt. Donc, d'avoir un endroit séparé. Parce que les sujets les ont repris à leur manière, mais le langage a changé. Il y a beaucoup de modes, le langage est daté de 10 ans en 10 ans. Il y a des nuances dans la manière de s'exprimer. Et la manière de parler des femmes 1970, maintenant, me paraît dépassée. La façon de s'exprimer change tout naturellement.
Mais ça pas, vous ne ressentez pas cette disparition un peu de la problématique même dans le journal?
Non, parce que c'était très à double tranchant. Il y avait la grande liberté due au fait que c'était effectivement considéré à l'intérieur de la rédaction comme quelque chose d'un peu annexe, qu'on pouvait regarder un peu avec condescendance. Et c'est pas important, donc elle peut bien dire tout ce qu'elle veut, ça c'est pas important. C'est donc très à double tranchant. Et le fait que les mêmes sujets arrivent dans les rubriques générales, genevoises ou suisses, peut leur donner un poids qu'elles n'auraient pas eu en restant séparées.
Mais moi, j'ai l'impression que ces sujets n'existent plus, justement.
Il y a eu...
Ces sujets ne sont plus là, simplement.
Moi, je crois qu'ils y sont.
Qu'avec la disparition de la page femme, la problématique femme a disparu. de la Suisse. En tout cas, disons, avant, chaque fois qu'on lisait la Suisse, il y avait au moins un article qui nous plaisait, qui nous étilte, qui nous parlait en première personne. Et puis maintenant, il n'y a plus. Il y a de temps en temps, il ne faut pas non plus trop négatif.
Alors, si l'électrice...
Il faut vraiment décortiquer le journal, relire, réinterpreter, lire entre les lignes.
Si pour les électrices avaient écrit pour se plaindre de ça et pour réclamer ça, je pense que la décision n'aurait peut-être pas été la même. Mais comme il n'y a pas eu de demande audible venant de l'extérieur... Il n'y avait pas d'argument pour la conserver.
C'est passé comme ça, oui. Comme une lettre à la poste. Oui. Et à la tribune, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un espace réservé aux femmes ou plus libre, ou vraiment ces les problèmes dits féminins?
Alors, il y avait un cahier féminin qui a été remplacé il y a... qui était très épisodique. Et puis, il y a eu une page... une page femme et une page homme, depuis 2 ans, je crois, il y a 2 ans. Mais qui avait une orientation qui n'était pas féministe. C'était la mode des problèmes féminins. Ce n'était pas simplement la mode, mais l'objectif, c'était d'être plaisant, léger, mais aussi pour la page homme. Hein. C'était 2 pages de divertissement, un peu de problèmes sociaux, un petit peu, mais traité toujours... L'objectif était d'être traité de manière agréable... et de ne pas utiliser de ton militant dans un sens ou dans l'autre. Et puis ces 2 pages ont disparu et parce qu'on a lancé un supplément culturel qui s'appelle l'Hebdo, qui paraît le vendredi. Alors les pages hommes ou femmes ont complètement disparu maintenant. Je pense un petit peu la même évolution. On a préféré avoir un magazine qui permette de parler de problèmes sociaux, culturels, d'une façon large. Je pense que ça correspond à une évolution de la mentalité en général, où les problèmes des femmes ne sont plus vraiment traités. Et les très jeunes, les femmes de moins de 30 ans trouvent tout cela un peu ringard.
C'est plus à la mode.
Il y a quelque chose qui m'a fait très plaisir. Il y a 2 jours, il y avait quand même une information sur l'égalité des hommes et des femmes et la signature d'une des nombreuses conventions du BIT. Le sujet a été tout naturellement traité par un homme et commenté par un homme. Et ça m'a fait plaisir, au lieu de me dire, comme je me serais dit il y a 10 ans, « Ah, ben alors attention, là, le commentaire, il faut qu'une femme l'apporte. » Ça m'a au contraire fait le plus grand plaisir de constater que les rédacteurs, hommes tout naturellement, se sentaient concernés par ce sujet et le commentaient eux-mêmes. Pour moi, c'était une évolution positive, ça.
Moi, je donnerais aussi l'exemple, dans la page économie, d'un article qui avait paru dans la Suisse à propos des femmes qui occupent de hauts postes dans l'économie aux États-Unis et qui constataient une régression du pourcentage de femmes managers. Ce journaliste a fait un commentaire que je n'aurais jamais osé écrire parce que je me serais auto-censurée. J'étais sûre d'entendre le lendemain dans les couloirs, ça y est, elle ramène son féminisme. Et j'étais ravie de voir que c'était dit par ce collègue avec un poids beaucoup plus fort finalement. Bon, c'est un peu triste peut-être de se dire que soi-même on n'oserait pas l'écrire. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que des hommes osent l'écrire aujourd'hui.
Bien, je crois que je vois l'heure qui avance. On a malheureusement terminé ce débat. Merci beaucoup, Sabine Estier. Merci beaucoup, Simone Guy, d'être venue. Vous avez dit que vos lectrices vous écrivent peu. Eh bien, nous aimerions aussi que nos auditrices nous téléphonent. Vous savez que la ligne est ouverte. C'est le 023 50 40 51 41. Onde Femme, mercredi, toute la journée, en direct, dans le spécial marathon de Radio Zone 93.8 MHz. Merci. Et dans 2 minutes, ça continue.
Je suis sale comme Rimbaud. Je suis lâche comme Villon. Débauchée comme Hugo. Syphilitique comme Baudelaire. Mais peut-être après tout, n'aimez-vous pas la poésie? Je suis faucheton comme Racine. Exhibitionniste comme Rousseau. Esclavagiste comme Voltaire, je n'existe pas comme Shakespeare. Mais peut-être, après tout, n'aimez-vous pas la littérature? Je suis bête comme Michel-Ange, alcoolique comme Utrillo, lèche-pote comme Velasquez, épileptique comme Van Gogh. Mais peut-être, après tout, n'aimez-vous pas la peinture? Je suis putain comme Lulu, esthète comme Beethoven, plagiaire comme Sébastien Bach, cupide comme Albinoni. Mais peut-être, après tout, n'aimez-vous pas la musique? Je suis gloutonne comme Colette, souillon comme Marie Curie, collabo comme Anne de Bretagne. Je ne suis pas un homme comme Jeanne d'Arc. Mais peut-être, après tout, n'aimez-vous pas les femmes? Mais peut-être, après tout, n'aimez-vous pas les femmes?
Ondes Femmes 93.8 MHz, notre programme continue avec Daniel Messia.
Grand-mère ghetto, grand-mère ghetto, ne te mets pas à gémir. Dans le ciel, il y a des oiseaux, c'est le moment de sortir. Grand-mère ghetto, moi j'en ai marre, je vais m'en sauver quelque part. D'une main tu me files des bonbons, de l'autre tu me files le bouton. Je veux avoir des joies futiles et pleurer même quand c'est pas la guerre. Je voudrais vivre des choses faciles, on n'a pas le même univers. Non, je porterai pas des valises, elles sont lourdes
petit comme un poisson dans l'eau. S'étire comme les animaux font.
I'm